T'as tourné ta tête juste pour entendre ton raclement bien comme faux pour faire le montage.
C'est comme le Q, là.
T'sais. Ah oui.
Fait que bienvenue à Critique Exquise, hein? Une nouvelle semaine de nouveaux films, ou vieux, ça dépend, on va voir ça. Je suis accompagné évidemment de Tommy Godet.
C'est moi!
Pascal Grenier qui mange une Pop-Tarte au chocolat.
Oui.
Ouais, voilà. Et Florence Payette.
Allô?
Et je suis bien évidemment Milan
Graf. Bien évidemment, oui. Hein?
Parce que vous pouvez pas me retrouver sur Internet, fait que c'est ça, ma bande de petits Chris.
Je veux pas qu'on me retrouve
jamais
sur Internet.
Cette semaine, Tommy.
Oui.
Est-ce que tu vas nous apporter quelque chose?
Ben, je pense que c'est Florence qui a dit qu'il voulait nous parler de Kristen Stewart par la...
Bam! Yes!
Par la bande.
Par la
puis
bande.
On va aussi parler de films de neige avec Pascal un petit peu. Puis on déboulera après ça dans la direction que ça nous tente.
Ben, qu'un.
Ça a l'air d'être pas mal. Ça, moi, j'ai rien de prévu. Sinon, écoutez Florence qui parle de Underwater et Pascal qui parle de films de neige.
Ben oui.
C'est bon, écoutez-moi à la maison aussi.
Let's go, amène-nous dans le monde de Kristen Stewart.
Alors, Kristen Stewart, ça fait, Pascal m'a appris ça aujourd'hui, ça faisait 3 ans qu'elle était en train de tourner un film que j'ai regardé avec, on a vu ça au cinéma avec Milan.
Ben oui.
Et ça s'appelle Underwater. Et l'affiche est digne des 15 premières minutes du film. Ça se passe dans une rig en dessous, dans la tranchée des Mariannes.
OK, creux en dessous de l'eau.
Creux, s'il vous plaît.
Les autres, ils sortent pas juste en dessous de l'eau, ils sortent en dessous de l'eau.
Non.
De luxe.
Ah, y a du pétrole à quelque part, on va le trouver en crise.
Dans les Mariannes.
Shit, okay. En gros, c'est une espèce de prospection dans la tranchée. Et il se passe quelque
chose. Une astie de grosse drill.
Qui va bien, même profond.
Ouais.
Fait que, et il se passe une shit dans cette drill-là. Et, et on voit un peu qu'est-ce que ça donne des êtres humains qui sont pas supposés être dans une place avec beaucoup de pression.
Ça, c'est hot.
Et c'est bien amené.
Ah, OK.
Et ce film-là m'a surpris parce qu'il va vers des tangentes que je pensais pas qu'il allait prendre.
OK, OK.
On a comme la catastrophe dans les 10 premières minutes. Et après ça, on passe par une ambiance très claustrophobe. Aussi très inquiétante parce qu'on est sous l'eau. Faut qu'on essaye de trouver une sortie. Puis peu importe ce qu'on fait, la sortie est très, 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 très loin. T'sais. Puis il faut qu'on trouve un moyen de monter à la surface.
Et de, sans mourir, mettons.
Sans mourir, tu sais.
Ben, là, moi, je t'entends dire ça. Ça sonne un petit peu comme Léviathan, là.
Je te dirais que c'est...
Y a-tu un monstre?
Il y a des choses dans la tranchée des Mariannes.
Spoilez-moi tout, là, on sent à Chris.
Mais, c'est comme Alien.
OK.
Ça m'a beaucoup fait penser à Alien, mais sous l'eau.
Ouais.
C'est moins bon qu'Alien. C'est pas mauvais,
ben, date,
mais
c'est pas
un chef-d'œuvre.
C'est tout ce que c'est Léviathan. C'est exactement ça.
Moi, je dirais que pour ceux qui veulent éviter les spoils... skipper un peu plus loin.
Ouais.
Mais là, j'embarque dans le territoire spoiler et je dirais que c'est très... on prend une tangente dans cette affaire-là qui est très, très, très Lovecraftienne. Et ça nous rejoint vers le mythe de Dagon puis des créatures qui sont sous l'eau. Et oui, effectivement, l'être humain a creusé très profond. Puis il y a quelque chose qui sort de la tranchée des Mariannes. Et il y a aussi...
Le mégalodon.
Non. C'est Jason Statham qui sort de
ouais,
non, mais c'est une espèce de créature immense, mais sauf que déjà là, les bébés de cette créature-là sont vraiment ultra puissantes. Fait que, tu sais, si on a de la misère à vaincre des bébés, on va avoir comme de la grosse misère à vaincre la maman,
la maman
ou le papa ou whatever.
Plus grosse,
c'est comme un géant Cthulhu.
OK.
Ouais, c'est...
honnêtement, les créatures sont vraiment hot. Ben, surtout la grosse, là, le Big Daddy, il est hot. Là.
Mais comment ils font pour les voir en dessous de l'eau? Ils sont
beaux
spots
à se
promener.
L'affaire, c'est que, on est dans le futur-ish, mettons. Là.
OK.
Puis, ils ont des sautes pour aller d'une rig à l'autre, puisque c'est plusieurs spots de rig.
C'est un scaphandre qui te permet d'être en dessous de l'eau à cette profondeur-là pendant 3 minutes.
Ça a des vitres.
OK.
Puis là, ça nous permet de voir, tu sais, des vitres qui peuvent voir à travers toute le, de la merde qu'il y a dans ce coin-là.
OK.
Puis là, on peut voir les créatures.
Mais c'est parce qu'il fait sombre, là. Il y a pas beaucoup de soleil, là.
Ben, c'est... Il n'a pas du tout, là. Fait qu'il utilise soit des lampes, soit des trucs infrarouges.
C'est ça, c'est
les
autres qui spotent le gros monstre.
Oui, ouais. Exact.
Okay, okay.
Mais tu sais, on s'entend que même avec ce qu'il utilise, je pense pas que ça se peut pour vrai.
Non, t'sais. Non, c'est pas...
Je pense pas que tu vois.
Il y a trop de marde là-bas.
Ouais, c'est ça. Tu sais, mon beau-père était plongeur professionnel sur des rigs de pétrole qui existent pour vrai. Puis lui, il disait que t'allumes pas ta lumière, parce que si t'allumes ta lumière, tu vois encore moins rien. Fait que tu fais tout aveugle en touchant. Fait que yes. Les autres sont genre 2 km plus profonds que ça.
Wow,
fait que d'après moi, il y a de peu de chances qu'on voit de quoi avec de la lumière, mettons.
Ben, là, c'est parce que tu peux éclairer à cette profondeur-là. En fait, les
déchets se rendent même pas. Oui, mais c'est les particules.
OK.
Oui, mais c'est ça. C'est okay. Un petit peu éclairé, mais...
Ouais, ouais, ben,
on n'est jamais allé, fait que j'ai aucune calice d'idée.
C'est
mais,
ça, c'est ça. Mais je veux dire, tu mets ton pied dans le fond, fait que là, le sable est, fait que là, on n'en voit plus rien. OK, ça me va. Mais là, il y a des grosses titines. Tu veux le manger, Kirsten, si tu vois.
Oui.
Puis pourquoi que c'est elle qui est là?
Ben, son personnage, ben là, c'est sûr, elle a signé ce contrat-là, fait que c'est elle qui est là. Mais,
parce que son nom est au début du générique.
C'est exactement mais genre, ça.
Son personnage est un technicien informatique sur cette rigue-là. Puis elle se fait pogner, en fait, elle est une des seules sur la plateforme, sur sa partie de plateforme, parce que c'est plusieurs plateformes qui descendent.
Ouais.
Fait que c'est une des rares sur sa partie de plateforme qui réussit à survivre. Elle et 6 autres personnes, dont le capitaine de cette équipe-là. Et elle, avec ses skills de technicien, elle réussit à genre débarrer des portes, ce qui est super utile quand la porte est vraiment bloquée.
Ouais, c'est sûr.
Fait que ben, c'est elle qu'on va suivre là-dedans. Puis c'est elle qu'il faut qu'il prenne des décisions, parce qu'elle se dit, genre, si c'est personne qui y prend, mais ben, personne va faire quelque chose. Fait que son personnage, en fait, est motivateur de l'action.
Fait qu'on est comme entre le film de monstre puis le film catastrophe.
Le film catastrophe, le film de survie.
OK.
Puis ce qui est intéressant aussi, c'est, je m'attendais pas à le voir là, mais Vincent Cassel est là.
Mmh!
C'est le capitaine de l'équipe. Puis il joue très très bien. Je veux dire, les personnages qui sont là...
Faut qu'un qui joue en anglais.
Ben il joue en anglais, puis il joue bien correct.
Ben je te dirais que comme les premiers 30 secondes à une minute de son jeu est pas super, mais à un moment donné, ça s'est comme replacé, on dirait.
Ouais.
Mais ça, c'est l'impression que j'ai eue pour un peu tout le monde, dans le sens que Kristen Stewart, aussi au début, c'était un peu weird, son acting, puis... Des fois, elle utilise des termes.
Ouais.
Puis on dit, tu sais, ça est comme pas à l'aise d'utiliser des termes. Fait que
c'est super informaticienne. Puis là.
Non, mais c'est vraiment ça ou c'est genre le personnage qui essaie de réagir à son environnement?
Ouais, mais c'est ça. Mais que ça soit ça ou qu'elle est juste. Qu'elle n'est pas capable d'acter, d'utiliser certains termes, ça rend pas la chose.
Ouais non, je sais.
Égal, tu sais.
Ça, c'est parce qu'on peut...
Il y a quelque chose qui a un problème, je sais pas c'est quoi exactement dans son acting. Pis...
Oui, c'est le un peu comme Dominique Michel dans Le déclin de l'Empire américain, quand elle se met à parler comme une universitaire alors que c'est une vulgaire.
Ouais, mais elle, c'est ça. Mais elle, c'est l'inverse, tu sais, elle utilise des termes que tu... Quand tu parles avec quelqu'un, mettons, dans une shop, des affaires de même, pis ça, c'est vraiment pas naturel.
Ouais.
Fait que c'est bizarre.
Ouais. Puis là, je veux dire, qu'est-ce que ce monde-là peut faire contre un monstre gigantesque qui fait des bébés tout puissants?
Ben, c'est ça l'affaire. C'est, faut qu'on survive à une rigue qui nous est pétée en face.
Ouais.
Deux, faut qu'on trouve un chemin pour aller à des pods qui vont nous mener vers la surface. Puis trois... Il faut qu'on invite les cossins qui nous veulent du mal, puis se rendre compte après que, genre, c'est sur une mine de pétrole, tu sais. Fait que. Il y a quelque chose qui peut se passer avec ça.
Oh.
Et ce qui est intéressant aussi, c'est le cheminement, en fait, l'acceptation de ce que tu as à traverser, puis c'est ce qu'il faut que tu fasses, justement. Ça ressemble vraiment à une partie de Donjon Dragon, là, je dirais. Là, si tu joues à...
Il y a juste assez de bonhommes aussi. Là. Oui, genre, il y a la magicienne, il y a Vincent Cassel, le voleur. Genre, pis,
ben, c'est comme, t'as le lead, t'as le paladin,
ouais.
T'as les gros bras,
t'as le barde.
Ah,
il y a un barde. Ah, ouais.
C'est quoi?
Ben, c'est le comic relief, là, tu sais. Puis, il fait quand même bien sa job. C'est juste assez. pour que ça te tape pas ses nerfs.
C'est ça,
hein.
C'est très important.
Tu sais, c'est juste assez pour comme, oui, dans cette situation-là, tu peux avoir quelqu'un qui fasse des jokes niaiseuses, puis que c'est pas trop...
Ça serait moi, c'est sûr.
on serait deux, là. On serait deux.
Je pense qu'on serait tout le monde.
Invitez-nous dans votre prochaine catastrophe. On va mettre de l'ambiance, sauf Pascal, là, lui. Pascal, il est trop pince sans rire. Il faut apprendre à le connaître.
Lui, dans Underwater, ça serait la stagiaire.
Ok.
Qui a tout le temps peur de mourir. T'sais.
Ok.
Qui est tout le temps comment on va mourir.
Puis à date, c'est quoi? C'était-tu bon?
Mais moi, j'ai été. Au départ, j'étais pas sûre de dans quoi on s'embarquait.
Parce que les critiques sont assez.
Ils sont assez. Non, moyen, c'est ça, mais c'est un bon film de divertissement.
Okay.
Puis avec la twist. Parce
que d'après Tindon, c'est vraiment Deepwater Horizon avec
c'est pas mal l'affaire. Bon, c'est pas mal ça. C'est juste que, c'est ça, avec la twist, j'ai trouvé que ça avait pris son sens. Puis dans le genre que c'est rendu maintenant, ce film-là, c'est un film Lovecraftien, c'est rendu un des meilleurs films Lovecraftiens qu'il y a, là.
Mais t'as pas vu Color Out of Space.
Color Out of Space.
C'est quoi ça? Il revient à mode, honesty, Lovecraft.
Ouais, là, mais c'est parce que Stephen King, il revient à mode.
On s'était l'année passée.
C'est-tu lié, ça? C'est,
ben, c'est cyclique, là, en fait. Ouais,
il n'a jamais été si hot que ça non plus, là, mais bon.
Tu parles de H.P. Lovecraft ou Stephen King? Lovecraft,
Stephen King, ça aussi, ça revient.
Del Toro, il a fait les Hellboy dans le temps, que c'était très Lovecraftien. Il y a eu l'affaire Dagon, justement. Là, tu en avais mis plein dans le marathon. C'était comme plus tourné à 2000. Fait que là, 2020, Chris, il me semble qu'il y a eu The Void dernièrement. C'est très Lovecraftien.
Ouais, c'est ça, on redécouvre les œuvres de Lovecraft sporadiquement. Ouais. C'est surtout, ça vient, comme tu as dit, Pascal, ça vient généralement avec une vague de nostalgie pour Stephen King.
C'était
eu
des années 80 aussi. Ouais, c'est ça.
OK. Puis,
Il va peut-être avoir une vague de Dean Koontz.
Oh, right back!
Mais il y a toujours comme quelque chose pour l'insondable. Il y a toujours un goût pour l'insondable, le cosmique, les choses comme...
L'indescriptible. Mais oui, c'est très fractal.
C'est quoi qu'il disait?
La portée des sens humains.
Dans le marathon, il y a comme 3-4 mots qu'il disait tout le temps, là. Il y avait le livre, là.
Necronomicon.
Oui. Il y a les montagnes hallucinées.
Oui, c'est ça.
Space.
Le Call of Toulouse.
Mais tu sais, comme tous les termes qu'ils utilisent tout le temps, là, c'est toujours le Necronomicon. Ils le disent 30-40 fois par film.
Les cités cyclopéennes et la lune gibbeuse. C'est les termes qu'ils utilisent le plus. C'est des immensités cyclopéennes et la lune gibbeuse.
Qu'est-ce que ça veut dire, immensité cyclopéenne?
Ben, c'est gros en crisse, puis la lune est pleine.
OK.
C'est ça.
Parce que le cyclope, c'est l'immensité cyclopéenne.
Ben, cyclopéenne, c'est des cités immenses et la lune fait... T'sais, elle a une croissance puis une décroissance. Gibbeuse, c'est quand ça croît.
C'est la Reanimator, qui est une petite nouvelle qui ne respecte pas tant le livre, la nouvelle de Lovecraft, mais ça peut donner des crises de bons films pareil, même si tu prends juste, t'es pas obligé d'être fidèle à faire un bon film. Moi, je trouve que c'est le gros problème de ça, c'est qu'on veut être trop fidèle au livre pour pas déplaire aux lecteurs ou aux fans, mais c'est parce que c'est un médium différent. C'est une manière différente de raconter une histoire.
C'est un médium différent, puis aussi le fait que l'horreur Lovecraftienne se traduit super mal visuellement.
Ouais.
Fait que moi, je te dirais que The Thing est une des meilleures adaptations, en fait, de l'idéologie Lovecraftienne.
Parce que ça devient rapidement un lexique ou des thèmes plus qu'une affaire précise ou comme...
C'est l'horreur existentielle puis l'horreur cosmique. Comment est-ce qu'on peut transcrire l'horreur cosmique
visuellement? Des tentacules après une pieuvre qui sort de la mer pour venir manger quelqu'un, ça va tout être Lovecraftien.
C'est l'horreur indicible, tu sais. Puis c'est comment est-ce que tu décris une horreur indicible? Pour Lovecraft, c'était des tentacules.
Est-ce que Lovecraft a déjà essayé d'y demander à l'horreur indicible comment qu'elle veut qu'on parle d'elle?
Je pense qu'il parlait beaucoup à lui-même, Lovecraft. Je pense que ça l'est beaucoup posé cette question.
Je pense que Lovecraft, il vivait pas mal dans la pauvreté avec sa petite chambre.
Il s'arrangeait pour pas avoir trop d'amis non plus. Il était très antisémite et très
C'était une charmante personne, entre guillemets.
C'est ça. Il y a eu une compagnie de jeux dernièrement, de jeux de table qui a mis, c'était sur Cthulhu pis tout. Puis à la sixième page, ils ont dit, check, on va mettre ça au clair tout de suite. Là, on le sait que le gars, c'était un raciste puis un misogyne pis tout. Mais là, c'est de son œuvre qu'on parle. Moi, je résume ça souvent au pâté chinois d'Hitler.
Pardon.
Ouais, Hitler faisait un excellent pâté chinois. OK. Tu sais, c'est correct tout le reste, mais là, on parle de son pâté chinois. Hitler faisait un excellent pâté chinois.
Ben, moi, fait que c'est comme
ça. C'est correct. C'est pas parce que c'était correct. C'est correct parce que je comprends. Que c'est ça. Si on parle après ça.
Aussi, qui c'est qui vivait dans ces années-là qui peut en parler encore aujourd'hui, là? Moi, c'est ça, un peu, j'ai de la misère avec ça. Là. Qu'on parle de quelque chose qui est qu'une personne est en ce moment, en 2019, c'est correct, là.
2020.
Mais je veux 2020.
Ça va vite.
Ah, ouais, ben oui, déjà 2020. Mais je veux dire qu'on juge quelqu'un après ça, ouais, mais tu sais ça, mais c'est un ci, puis c'est un ça, puis
ça vient vite, là.
C'est comme
C'est sûr que, tu sais, il y a un contexte à tout, puis je trouve que l'œuvre de Lovecraft aussi s'inscrit dans... c'est ce qu'il a été, puis ce que la société qui l'a formé aussi.
Effectivement.
Fait que, tu sais, oui, on peut reprocher tout à Lovecraft, puis lui donner toutes les étiquettes qu'on veut. Reste qu'il a fait quand même des œuvres qui ont marqué pas mal de personnes.
Il a fait un excellent
Il a fait un excellent Toulouse chinois. Ouais, c'est ça. Voilà.
Oui, ouais, comme Polanski et Woody Allen ont fait d'excellents films aussi.
Genre, comme Walt Disney.
Moi, ce que je préfère d'inspirer des œuvres de Lovecraft, c'est l'œuvre de André Haus, le BDiste. Je vous conseille ça vraiment. J'ai l'intégrale des Rourke, là. C'est béni, ces affaires-là. C'est du plus neuf. BD Rourke, André Haus, H.P. Lovecraft. Est-ce que tu nous ramènes au fond de l'océan Underwater avec Kirsten Stewart?
Je vous ramène un peu là-dessus, parce que je vais aussi parler de la trame sonore qui joue beaucoup sur la tension et l'ambiance. Fait que c'est pas une trame sonore qui est très, très présente. En fait, elle va juste comme raviver certains sentiments qu'on a, surtout l'urgence de nos personnages à survivre. Puis, je trouve que, pour faire un mot de la fin sur Underwater, c'est un très bon film de Lovecraft. Et c'est aussi un film très divertissant qui se passe en dessous de l'eau et qui m'a fait vivre pas mal de stress parce que j'ai fait de la plongée et ça m'a remis comme là-dedans dans un stress de plongée un peu inquiétant. Et bravo Underwater pour cette chance.
Souvent aussi, tu sais, je veux dire, la vague de films à la Alien, c'est peut-être ça que Alien a comme inventé en premier, c'est que tu t'isoles tes protagonistes vraiment loin. Là, tu sais, ils sont dans l'espace perdu, puis là, ils débarquent dans un vaisseau inconnu. Tu sais, mettons qu'il y a une marde, ils peuvent pas décrocher le téléphone puis venir nous aider. Puis ça, c'était feeling-là, c'est quelque chose qui a comme été essayé de toutes sortes de manières. Léviathan l'avait fait dans le fond de l'eau. Moi, je me rappelle, j'avais capoté ce film-là. Beaucoup plus que Abyss. Là. Abyss, c'était un petit peu ça, mais je trouvais que c'était visqueux. C'était pour ma mère, Abyss.
Avec 3% de violence faite aux femmes.
Exact.
Close Encounters of the Third Kind. Mm-hmm. C'est d'ailleurs à partir d'Abyss que James Cameron s'est pris pour le nouveau Spielberg et a abandonné son côté artistique.
Mais voilà.
Tombé dans les abysses de l'ego.
Sinon, j'ai trouvé, on en a parlé la semaine passée, mais The Lighthouse, j'avais trouvé c'est une nouvelle manière de créer un contexte dans lequel isoler tes personnages par rapport à une menace qu'on sait pas trop à vient d'où, puis c'est quoi. C'est un petit peu tout le temps ça l'exercice là, de réinventer, de trouver une nouvelle manière de le faire. Puis là, ils sont retournés en dessous de l'eau, puis toi, t'as mordu.
Moi, j'ai mordu. Moi, je m'attendais à rien, en fait. Puis j'ai juste fait comme, bon, ben, je me suis laissé guider par le film, puis that's it.
C'est ça qui est arrivé. Toi, Milan?
Exact.
Ben, moi, j'avais pas vu de trailer. En fait, non, j'avais vu un trailer, mais je m'en souvenais pas que j'avais vu un trailer. puis
je refusais de dire n'importe quoi.
Mais c'est parfait. Puis au début, en fait, ça m'a rappelé c'était quoi le film. Puis là, je fais ah non. Finalement, c'était correct.
C'était correct.
Ben ouais.
OK. Plus 5.
Ouais, 6, mettons.
Plus 6?
Ouais, genre 2,5, 3 sur 5.
OK. Je veux dire plus 6.
Ouais, c'est ça.
OK, c'est bon. T'attends sur 5, gars.
Oui, on est en accord.
Toi, c'est-tu quelque chose que t'as hâte de voir, Pascal?
Non, du tout.
C'est-tu parce qu'il n'y avait pas de neige dedans?
Non, mais tant mieux si c'est mieux que je pensais, mais moi je me méfie toujours des films que ça fait 3 ans que le tournage est fini, là, mais bon,
wow.
Je me dis toujours qu'il y a de la...
Je te rassure, mais ça a paru un peu quand même.
Ouais.
Okay.
Ouais. Mais bon. Ben, c'est pour ça que ça score pas plus, là, mais je veux dire, c'est quand même du bon.
Non, mais déjà
bon
que ce soit correct aujourd'hui dans toute la faune des blockbusters pas écoutables, là, c'est déjà correct. C'est Jim Lieu, je trouve.
Mais effectivement.
Bon, je le verrai sûrement un jour quand ça va me tenter de regarder ça. Mais déjà, Léviathan et Deep Star 6, qui était un autre, ouais, qui était sorti dans le même temps.
Même feeling.
C'est des films cheesy. Peut-être, je pense, qu'ils sont plus le fun aujourd'hui. Peut-être si on regarde un côté nostalgique cheesy.
Ouais, ouais,
mais je pense qu'à l'époque, c'était juste pas des bons. Ben, c'était des séries B honnêtes et sans plus. Là.
C'est ça, c'est ça.
Ce que peut-être ce film-là est aujourd'hui, je sais
ben, pas. Je peux te confirmer que oui. Oui, oui.
Série B honnête, on aime ça.
Hein? Une série B honnête, moi, j'accepte ça.
Fait que ça va jouer genre à VTL dans 6 ans. Pis...
Ah, clairement.
Ouais.
Oh, oui. Oh, oui. Ouais, c'est là où j'ai eu comme... C'est genre à zone ou quelque chose, là. Puis,
je sais pas télé, ce qu'il joue à la fin.
Non, mais exemple, là. Oh. Écoute, les films de John Hughes, ça va à TVA. Puis les films trashy comme ça va à VTL.
Ouais, puis après ça, tu te fais des belles soirées à regarder, genre Stargate, puis des choses comme ça. À découvrir des affaires.
Découvrir Stargate.
Ça fait longtemps que
je n'ai pas regardé
ça.
Non, j'ai jamais voulu le revoir.
Pour moi, c'est comme.
Kirk Douglas.
Tout là-dedans, le goût.
Star Wars pharaonesque.
Oui, oui. Ben moi, j'ai
trouvé que l'histoire, cette NES, se mélangeait bien avec la note. Là, quand oui. Le monde m'en parlait, là. Ben, j'ai vu le film. Puis après ça, c'est comme le pilote pour la série. Là. Après ça, ça jump le shark en esti.
Mais là. Moi, déjà là, quand on voit un beau raccord de scène où c'est des chevaux qui courent dans le désert, mais en saut pour que ça fasse paraître comme si c'était des créatures d'un autre monde. Sur un autre plan, tu vois clairement que c'est deux d'autres dans un saut de cheval qui court. Je suis comme déjà là, tu m'as, là, genre. T'as mon amour pour cette chose, le go, là.
Ah, Pascal, il me regarde, là, il a envie de parler de ses films d'hiver. C'est-tu quoi, Pascal? Avant, là, je veux mentionner que j'ai recommencé à écouter les Chromas de Karim Debbache.
Yes. Puis,
si vous avez jamais écouté ça, ça vaut vraiment beaucoup la peine. Le gars connaît le cinéma, puis il fait des critiques de films comme Vidocq ou Mac and Me ou okay. des affaires un petit peu champ gauche que tout le monde a oublié. Puis c'est très drôle. Chroma, C-H-R-O-M-A. Si toi t'as jamais vu ça, je te le conseille fortement, d'accord. Pascal.
Il est sur Dailymotion et sur YouTube.
Ouais, mais c'est mieux sur Dailymotion.
Mais c'est mieux sur Dailymotion.
Parce que sur YouTube, c'est quelqu'un d'autre qui a uploadé ses affaires. Puis il y a plein de bouts qu'il n'y a plus de volume parce qu'il voulait pouvoir monétiser. Puis c'est des
mais
affaires.
Okay. Allez plutôt voir l'entièreté de Chroma sur Dailymotion.
Et
puis,
voilà.
Karim Debbache a un univers à lui qui est très, très, très sympathique.
Ah, c'est oui, oui, oui. Puis vous pouvez commencer aussi par Crossed. Oui. C'est la première série qu'il a fait. C'est entièrement parce que lui, il a commencé, il était scénariste pour Le Joueur du Grenier, je pense.
Mm-hmm,
et ouais. À un moment donné, il a fait sa série Crossed pour le magazine français en ligne. J'ai oublié c'était quoi. Mais
blog.
C'est des films basés sur des jeux vidéo. Et, fait que là, il parle de toutes sortes de grands classiques comme Teenage Mutant Ninja Turtles,
Alone in the Dark,
Silent Hill. Oh, il parle de Uéball une couple de fois, d'affaires-là. Fait que Karim Debbache, voilà, Crossed et Chroma. Là-dessus, on va aller avoir fret avec notre bon chum Pascal, j'ai l'impression.
Ben ouais, je sais pas pourquoi, je me suis lancé le défi de moi-même.
Tu fais ça souvent, toi, c'est pas ton premier. Là.
Non, mais il y en a qui m'en demandent. Ça, je les accepte, mais sinon...
OK, des gens qui te provoquent, qui te disent « Fais-moi 8 films de singe en 8 jours » ou...
Ouais, un peu, ou genre, ça serait le fun. Ben, je pense qu'ils s'attendent toujours à ce que je mette la crème de la crème, mais j'ai pas nécessairement toujours le goût de revoir les films que j'ai aimés, là.
Ben, je sais.
Fait que c'est
sûr.
Ça l'affaire. Fait que souvent dans ces challenges-là, j'essaye des films que j'ai pas vus, souvent. Je dirais que c'est au moins 50-50.
La découverte donc, avec Pascal.
C'est ça, Ross Spymate, le film de singe.
Ben, je l'ai vu avec toi au lundi douteux. J'étais resté avec toi. Et j'avais été agréablement surpris. J'avais été agréablement entertaining. Fait que voilà, fait que là, j'ai été commencé. Fait que c'était 100 films de neige. J'ai commencé, genre, ça mène jusqu'à la fin mars. Donc, je suis même pas rendu à moitié encore.
Ça fit,
C'est un film par jour, ouais. Moyenne. Fait que jusqu'à date, je maintiens le rythme. Je pense qu'il y a une journée, peut-être j'en ai regardé deux parce que la veille, j'avais autre chose à faire. Mais que j'ai fait autre chose.
T'as fait ton rattrapage de films de neige pour garder ça tête.
Pour garder ça tête.
C'est ce qui est fiable.
Fait que bref, j'ai comme sorti une liste de 600 films là-dedans, j'ai pigé, je suis rendu à 45.
De Phantom de Dean Koontz.
Ouais, j'ai écouté ça, mais ça, tu vois, c'est le genre de film qu'à l'époque, Phantom, j'avais lu le livre, puis je trouve que c'est un des plus mauvais livres de Dean Koontz. Mais peut-être un des plus adaptables aussi.
Bah,
parce
oui,
que c'est...
Oui,
parce
ben,
que
il est très adaptable, Dean Koontz. Oui, peut-être oui, encore oui, plus que Stephen
encore
King.
Encore plus, oui, parce que Dean Koontz, lui, c'est, contrairement à Stephen King, c'est plus de l'action tout le temps.
Ouais, ouais, ouais.
Ça, c'est tout le temps les chapitres, c'est des hangovers, puis t'as ouais, le goût ouais. de connaître la suite. T'sais, il perd pas 300 pages jour
d'enfance. En description d'un pick-up ou ça. Une affaire de même. Là. Ouais, c'est
puis
vrai que ça
Dean Koontz, ben, ça a été aussi peut-être... Ça, c'est une de ses qualités. C'est très tight.
Est-ce que vous savez de qui qu'on parle quand on parle de Dean Koontz? Ça, vous êtes plus jeunes, vous autres. Hein, ouais. parce qu'il fut un temps...
Il y avait Stephen King puis il y avait Dean Koontz.
Oui, c'était
ça,
les
il
deux.
Il fut un temps
gros,
où c'était le sous Stephen King.
Le sous Stephen King.
Le bargain Stephen King. Il y a eu,
le
deux,
Costco
trois...
Stephen King.
Le Stephen King.
En fait, Dean Koontz a commencé à écrire avant. Stephen King a écrit de la science-fiction beaucoup dans les années 70.
C'était un Stephen
King. Après ça, mais il est devenu... Il a commencé à faire des...
Stephen Queen, genre.
C'est ça.
Il a écrit beaucoup de science-fiction. Il avait écrit un excellent livre qui était Demon Seed. Ils ont fait un film là, sur un des premiers ordinateurs intelligents qui finalement possédait une intelligence puis tente de violer son occupante. Là. Non, ça s'appelait Demon Seed avec Julie Christie.
C'était pas tout à fait Skynet parce que okay, c'était vraiment une personnalité dans l'ordinateur.
Ah, okay,
c'était pas comme une intelligence qui pouvait se répartir
non,
partout
non, c'est ça,
de la même manière.
C'était une extension.
C'est ça.
C'était pas
mais
un hard drive, c'était un hard drive.
Le film
c'est
était ça. Correct aussi. Il a été remonté par les studios. J'en ai lu pareil parce que c'était Donald Cammell qui est un particulier qui avait fait ce film-là. Mais voilà, donc c'est ça, c'est un film de commande, mais il a perdu le gars. En tout cas, finalement, c'est les studios qui s'en sont mêlés. Mais bref, il n'y a pas eu beaucoup d'adaptations de Dean Koontz au cinéma, même s'il a écrit plus que Stephen King. Je pense que je l'ai lâché un moment donné, mais mettons que j'ai eu ma période Koontz dans les années 90, mais je relisais surtout ses films, ses livres des années 80.
T'as eu ta Koontz phase.
Ouais. Ben, tu sais, il y a eu comme Watchers. Film avec un chien intelligent, puis Corey Haim. On fait 3-4 suites, mais bref, à la base, c'est un livre
t'es-tu
de Stephen
King. T'es-tu en
train
de me dire que j'ai 3-4 films de chiens de plus qui viennent...
Ah, t'es avais pas vu?
Non, c'est rien.
Parce que dans Dean Koontz, il y a toujours des chiens. Non, c'est un maniaque de toutou. Puis des chiens, soit qu'ils sont bons, méchants, ça dépend. C'est souvent l'homme, ils sont impliqués.
Ouais.
Non, mais ils ont quand même, dans Phantoms, d'ailleurs, il y a deux chiens aussi dans Phantoms.
Mais je pense que l'on va t'ouvrir une porte.
Ce qu'on n'aime pas, ces grands détracteurs de Dean Koontz, c'est que c'est toujours des happy endings, puis ça, les gens n'aiment pas ça.
Ouais, ben pour un écrivain d'horreur aussi.
C'est vrai que c'est plate, ça, quand ça finit bien. Hein?
Ben, c'est parce que souvent, ça finit beaucoup bien, lui.
Ça finit beaucoup bien. Mais bref. Ben bon, moi je l'aimais quand même parce qu'il était entertaining. Mettons que tu lis un Koontz puis tu passes.
Ben, ça passe très vite.
Hein. Puis il y a quand même des bonnes idées aussi. Non, ça va faire pour le pop-tart. Donc, bref, j'ai regardé Phantoms, mais c'était pas nécessairement ça que je voulais parler.
On parle de films de neige,
c'est ça. Mais j'ai fait pas ceux que j'ai vus, mais je pourrais quand même dire peut-être mon top 5 que je vais sûrement les réécouter là-dedans.
Vas-y.
Fait que évidemment, Florence en a parlé de Thing et sans doute
mon numéro 1.
C'est bon. Il y a Runaway Train que j'adore, qui est un film de neige aussi, avec le préféré de
Eric Roberts.
Ah, okay. Et John Voight. Mon préféré, c'est Gary Daniels.
Non, je sais, mais tu l'aimes pas. Eric Roberts et John Voight, les deux auraient dû gagner l'acteur l'Oscar du meilleur film, mais vu que c'était produit par Canon. Produit par la Canon, donc les Oscars, c'est impossible qu'ils donnent ça à la Canon.
Ben non.
D'ailleurs, Eric Roberts a perdu contre Don Amesh, puis aujourd'hui, il est crampé à chaque fois qu'il se rappelle de ça. Don Amesh pour Cocoon, là. C'est ça qu'il avait gagné. L'Oscar du meilleur. On parlait d'extraterrestres dans l'eau.
Ben oui.
Voilà, il y a un lien sans le vent. Donc, c'est ça, mais il y a d'autres films. Il y a plein de films de neige. Un des premiers, c'est The Gold Rush de Charlie Chaplin.
Ouais, OK.
La ruée vers l'or aussi, que ça se passe dans neige. Puis bonne partie.
Tu vas-tu retourner dans les classiques comme Antarctica?
Antarctica, curieusement, je l'ai vu trop petit, puis je pense que je m'en souviens pas, mais il joue à la Cinémathèque dimanche et je vais aller le voir sur grand écran.
Ah, ouais. Wow.
Ouais, j'en ai une copie chez nous, mais je me suis dit, tant qu'à me le taper pour vrai, je vais aller regarder à la Cinémathèque.
Sonore d'évangéliste de ce film-là. J'en ai des
frissons. Je connais la...
Quand le chien meurt à cause qu'il se suicide pour sauver
son chum. Arrête, je l'ai pas vu. Je m'en souviens plus. Je m'en souviens plus, Tommy.
Bon, ça y est. Les amis, hashtag spoiler.
Ben là, les chiens, ils meurent dans l'Antarctica.
Mais bref, il y en a plein. Ça m'a permis de 14. Regarder des...
On... J'ai jamais vu ce film-là.
Non, j'ai jamais vu l'Antarctica.
C'est, hey, c'est l'histoire vraie. De scientifiques qui sont obligés de quitter plus vite que prévu l'Antarctique, puis là ils ont des traîneaux, ils ont des chiens de traîneau,
oh,
mais
non.
Ils peuvent pas les amener, puis il faut qu'ils partent, là, grosse tempête puis tout, puis là ben Chris, ils ont tout le cœur gros, puis là ils laissent les chiens là puis ils s'en vont, mais là les chiens ils réussissent à se libérer de, j'ai pas trop compris pourquoi qu'ils ont gardé attachés là, mais là les chiens ils réussissent à se libérer, puis tabarnak, des 14, il y en a qui survivent l'année yeah! d'après quand ils reviennent, puis ils battent contre l'Antarctique Antarctique, pis il gagne, pis c'est...
Oh, une leçon de courage.
Et c'est un film japonais.
Oui, ah, ouais, okay. En plus. Ouais. Avec une trame sonore d'Evangelis.
Oui.
Il y a des plans là-dedans, là. Avec un orque.
Deux westerns que j'adore qui ne sont pas Hateful Eight, mais qui sont McCabe and Mrs. Miller avec de Robert Altman avec Warren Beatty. C'est un film extraordinaire, c'est... Se passe dans la neige, une grande okay. partie dans l'auberge à côté où c'est que.
Ah, ça, tu m'as dit.
La lumière, ça, c'est magnifique. Et Jeremy Johnson aussi, qui est un excellent film de survie avec Robert Redford, qui est un peu Il danse avec les loups, mais version plus, plus intelligente.
Ouais, ouais, un peu plus moins, humaine, genre.
Plus, ouais, c'est ça. Un peu moins les blancs. Les blancs sont méchants, puis les indiens sont bons. Ouais, c'est un ça, petit c'est peu plus. un petit peu plus nuancé.
Puis il y a plus de chiens aussi oui. dans Jeremiah Johnson. Mmh. J'aime ça, ta date, tes affaires de films de neige.
Fait que, ben, ça, c'est les très bons que j'ai hâte de revoir. Sinon, j'ai regardé quelques classiques là, dans le temps des fêtes. Et c'est sûr, j'ai écouté Die Hard 2. On sait très bien que c'est...
C'est solidement l'hiver dans Die Hard 2.
Tous les films de Rennie Harlan, c'est souvent l'hiver. Peut-être c'est... parce que c'est un Norvégien. Ils ont dit, hey, tu connais ça, le fret? Ah ouais.
Ils ont poussé dans le dos. Ah ouais.
Tu connais ça, le fret?
Non, ah ouais, c'est vrai, il a tourné Cliffhanger, il a tourné Long Kiss Goodnight. C'est tous des films de neige. D'ailleurs, Long Kiss Goodnight, c'est mon préféré de Rennie Harlan.
Ah ouais, hein?
Peut-être parce que c'est le script de Shane Black, puis à le voir aujourd'hui, puis Gina Davis, et, avec ses skills, puis tout, mais c'est sûr que c'est différent, mais ça fait John Wick un peu. C'est John Wick a
ouais,
un peu piqué
vrai,
sur Kiss Gunnar, parce qu'elle, c'est son passé, puis là, finalement, elle découvre ses skills, mais
ouais,
là,
elle
tombe dans la mémoire.
Elle
les redécouvre, puis elle peut tuer tout le monde.
Ça fait un peu de 13 aussi, genre. Ouais, ouais.
C'est vraiment bien. C'est ça, la force, c'est aussi dans la relation qu'elle développe avec.
Ben oui.
Avec Samuel Jackson, qui pour une fois est cool. Souvent, des fois, il se pense trop cool. Mais
puis là, il y a aussi avec son mari. Ouais. Tu sais, lui, au moins, c'est-tu ça ma femme?
c'est quand capoté, même c'est ouais, bon la film, première ça. Fois qu'elle tue les autres qui attaquent chez eux. Là, c'est vraiment cool.
Mais Rennie
ça passe
Arlen.
Bien. Non, mais après Long Kiss Goodnight, tout ce qu'il a fait, c'est à peu près invivable.
Ben, premièrement, le film de pirate, il est correct.
Il a tourné ça tout de suite après parce qu'il avait marié Gina Davis.
Fallait que ça serve.
Puis c'est ça.
Non, mais moi, ce que je veux dire, c'est plus Ford Fairlane. Moi, ça, c'est un comédie-là.
Ouais. Ben, celle-là, c'est pas dans Neige, pour ça que j'ai pas vu. Mais oui, ben, ça, c'était encore... Moi, j'aimais beaucoup Rennie Harlan jusqu'à, justement, Long Kiss Goodnight. Après ça, c'est pas mal...
Ça commence à être plus difficile.
Là, il tourne en Chine, maintenant. Il a tourné un deuxième film en Chine.
Oh, wow! Hein? Ben oui, ben
troisième,
oui.
Troisième, son compte, celui-là avec Jackie Chan qui a remplacé. C'est le réalisateur initial.
OK.
Skip Trace, là, avec lui et Johnny Knoxville.
Ouais, voilà, ah, c'était avec, pas bon, ça. Johnny Knoxville.
Non, ça, c'était pas
ça,
bon. C'était pas on bon, a regardé un autre que c'était pas bon non plus. Là, je me souviens plus. On a même fait l'exercice de critique exquise.
C'est un film de fantastique. De Bruce Willis, là, qui est en Chine.
Non, non, un autre truc fantastique. C'était les premiers temps de...
Ah oui! Il avait toute la même coupe de cheveux, puis il sautait partout.
Ouais, c'est ça. Ça sautait partout dans un monde féerique et magique.
Ouais. Oh oui, ben le genre de film que, comme mettons, ben pas La Momie, mais tu sais, que si t'avais vu ça à 11 ans, ça aurait. Waouh! Wow, ouais, mais que là, passé le cégep, il n'y a rien à faire.
Puis là, c'était genre le 12e film, à peu près, fantastique chinois de ce genre-là, qui sortait dans les trois dernières années.
C'est
là.
Parce que l'empereur dragon, il va dominer le monde si on
n'oublie
pas les deux enfants bénis de la promesse éternelle.
Ah, il n'est pas encore là, l'empereur dragon.
L'empereur dragon, il va revenir!
Ah, il est fatiguant, il revient tout le temps.
Ouais. Mais son dernier film qu'il a tourné, c'est un film aussi de... C'est un ancien script qui avait été écrit à l'époque aux États-Unis, mais ils l'ont adapté en Chine pour le mettre finalement en chinois. Mais il paraît que c'est un huis clos très efficace avec des bonnes scènes d'action.
Oh, un huis clos
asiatique. Peut-être que Rennie Harlin est sur la bonne voie en Chine.
Back Rennie Harlin.
Bring back Rennie Harlin.
Je pense à ça. As-tu déjà vu Sona, le film finlandais, norvégien?
Non, mais tu n'avais pas
parlé. Il y en a de la neige là-dedans.
C'est bon, ça.
Ça a fait mon top 10.
Je suis toujours ouvert parce qu'il m'en reste 55 encore à voir.
De la décennie, ça, c'est le film qui m'a le plus
changé.
Je m'attendais pas à, parce que là, bientôt, on va faire notre top de décennie. Et ce film-là, Sona, a fait mon top 10 des 10 dernières années. Là. Ben, en fait, mon top des 10 dernières années. J'ai pas fait un top 10. Là, c'était trop compliqué.
Ouais, mais c'est sûr que limiter 10. Moi, j'ai fait cet exercice-là. Puis je suis sûr que j'en oublie, mais je suis rendu à 30. Puis j'ai arrêté à 30.
Ouais, c'est difficile. Là.
Fait que c'est 30 films marquants, en fait. Là,
on va sûrement avoir chacun notre show pour parler de ça. Ouais, mais là, on continue à parler de films de neige.
Ben, c'est ça. J'ai regardé Gorky Park. On parlait tantôt d'adaptation de Stephen King, de David Cronenberg, qui est probablement le film le moins cronenbergien de tous ses films.
Lequel, t'as
dit? Gorky Park.
Gorky Park, c'est The Dead Zone.
Ah!
Parce que j'avais Gorky Park. Parle?
Oh boy, la mémoire est partie. Yeah. C'est les mêmes années. Là,
on est tout arrivé en même temps.
Mais oui, Gorky Park, c'est un film avec William Hurt, là, d'un tueur en série à Moscou. Mais ça aussi, c'est un film de neige, parce que j'avais le goût de le revoir, puis c'est peut-être parce que c'est la même année, je sais pas, mon cerveau, il y a comme... Mais Dead Zone, moi, ouais, je l'ai revu, qui est bien, mais j'ai moins trippé que... Je pense que c'est un film que je regardais beaucoup quand j'étais jeune, puis j'aimais bien gros.
Okay.
J'aimais la glace, elle va casser! Quand il dit ça...
Puis, à cause-tu?
Ben oui, mais
ben oui.
Il y a ses prémonitions. Ben oui, elle a cassé.
Ah oui.
Ben, il a réussi à sauver un enfant, mais les autres crèvent toutes dans le.
Ben
rendu là, c'est un peu de moyen au bon
Tu sais, c'est comme Chuck Norris dans Invasion USA. Il sauve le boss, mais il sauve pas les enfants qui explosent dans
Je pensais
que c'était l'attraction.
Je pensais que t'allais nous conter une blague de Chuck Norris. Genre, c'est qu'est-ce que les enfants, ça fait sur l'eau quand Chuck Norris est là, ça se noie.
C'est drôle parce qu'on a ri quand t'as parlé des enfants qui sont morts dans d'horribles souffrances.
Je pense que c'est rare, ça arrive très quand rapidement. Même. Je pense pas qu'ils ont eu le temps de souffrir. Ben,
moi, je pense qu'on va tout en enfer. Mais ça, c'est notre histoire.
Ouais, c'est ça. Bon, en tout cas, c'est un petit peu moins drôle de même, je trouve.
Okay, fait que, bref, c'est ça. Je fais des découvertes, je fais des cochonnets. Il y a des films que j'avais
T'as-tu
pas
vu. Une source? Genre, tu y vas-tu comme au hasard, film de neige?
Moi, je vais au hasard. Il y a des films que la neige est vraiment plus présente. D'autres, c'est des moments clés dans le film. Donc, c'est... J'ai regardé un film indien parce que je savais que ça se passait dans la neige une bonne partie aujourd'hui. Fait que...
Puis, mettons, t'as jamais de difficulté à trouver un film avec de la neige.
Ben, c'est tous des films que j'ai chez nous, pas mal, ou facilement trouvables. Ou sinon, des trucs que j'essaie, là, ou, sur Prime Vidéo, des choses comme ça.
Parce que Pascal se tient au courant, ça précise.
Oui, j'ai regardé un excellent film japonais qui date de 1947, en fait, que je connaissais pas, écrit par Akira Kurosawa. Et le premier film de Toshiro Mifune, puis c'est un magnifique film de neige.
C'est quoi?
Ça s'appelait Snow Trail.
OK, c'est bon.
Ouais, le titre en anglais. Noté. C'est vraiment bon, je pourrais vous l'envoyer. Si
Yes. Sur tous les films, surtout les bons que tu vois, c'est sûr qu'on les veut. Là. Il y a Florence, elle en veut. Moi, Milan, il y en veut.
Ben, je ferai un beau dossier pour...
S'il te plaît, Pascal Grenier. Oui. Ça précise.
Fait que je vais faire un bilan. Je vais revenir peut-être faire un dernier. Je reparlerai de mes 55
ben
que j'ai vu.
Parce que là, t'as juste la première moitié de fête. Voilà. Ceux qui sortent du lot, t'as pas mal fait le tour.
Ouais, c'est pas mal ça. Là. Sinon, un film français que j'ai bien aimé aussi, qui était Le Voyage au Groenland.
Voyage au Groenland.
Ouais.
Ça me dit rien.
Ouais, c'est vraiment intéressant. C'est pas des acteurs connus. C'est le gars qui décide d'aller retrouver son père parce que lui, il habite au Groenland puis il part avec un de ses amis. Puis finalement, il découvre la population. Puis c'est un mélange d'humour puis aussi de retrouvailles avec le père. Avec toutes ces années-là, puis c'est humour et tendresse, mais l'humour est quand même assez particulier parce qu'il y a la barrière de la langue. Lui, il est en amour avec une espèce de... Pas le gars principal, mais son ami. Il tombe comme en amour avec une Inuit qui est là puis mais ils se comprennent pas, mais lui, il pense c'est qu'elle dit telle affaire. c'est comme assez drôle.
Ouais.
Des petits cripocos comme ça, mais le film est intéressant aussi visuellement. C'est tout filmé, évidemment, en décor naturel là-bas, sur place, dans un petit village et tout. Donc, t'as froid en regardant ce film-là, par
exemple. Ouais, sûrement.
Mais t'as le goût d'être avec eux autres, t'as le goût de repartir là-bas.
Bon.
En tout cas, ça, c'est des belles, fait qu'il y a des belles découvertes comme ça de films que je sais
plus. Juste que la thématique neige t'a comme amené vers des affaires que peut-être que t'aurais pas vu, puis que finalement, c'est des bons films.
Ouais, puis je me réserve quelques classiques, là, c'est sûr, vers la fin que je vais retaper. Comme Antarctica, s'il passe à la Cinémathèque, je vais aller.
Ça va.
Il y a Jeremy Johnson que je voulais aller voir, mais malheureusement, j'ai un autre film de neige qui est. qui est en avant-première, fait que je pourrais en parler, un remake d'un film de neige, justement.
Un remake de film de neige.
Force majeure, qui est un excellent film suédois.
Effectivement.
Puis là, ils ont fait un remake, je savais même pas, j'ai vu
mais
ça.
Mais pourquoi? Tu veux dire que Jeremiah Johnson joue au cinéma?
Non, mais c'est parce qu'il joue à la Cinémathèque, mais okay. En même temps, j'ai l'avant-première, fait que j'ai comme pas le choix, j'ai réservé à l'avant-première. Fait que vu que Jeremiah Johnson, je l'ai quand même en Blu-ray chez moi, donc je vais le réécouter chez moi, mais j'aurais aimé ça le voir sur grand écran.
Fait que
je vais aller voir le film avec Tina Fey et l'excellent, le magnifique Will Ferrell.
Yeah,
fait que je vais vous en donner, surtout que le film suédois est un drame.
Le magnifique Will Pascal.
Non, c'est une blague.
Je
le déteste. Puis je pense que j'ai vu un film sur 10 sur lui, c'est à peu près beau. Voilà. Donc je m'attends pas à grand chose, mais je vais vous en reparler parce que c'est une primeur, puis on essaie de couvrir quand même les
bonnes. Ben ouais, on est au courant ici à Critique
X. Ça peut toujours être surprenant.
Oui, ça peut être surprenant.
Mais Force majeure était déjà très très bon.
Oui, c'est ça.
Mais Will Ferrell et Tina Fey.
Really? Oh, moi, c'est genre d'affaire-là. Ça, je vois tout le temps l'image. Ça fait très BD, là, mais tu sais, du petit avion monoplace, deux, trois places, juste en haut de la jungle, puis juste en dessous du gros orage. Puis là, il faut qu'il vole, là, tu sais.
C'est le capitaine.
Ça me pop tout le temps dans la tête.
Le capitaine qui prend une bonne respiration avant de s'engager. Puis oui, OK.
C'est ça. On va
il y a des drones dans Force majeure. Il y a d'ailleurs, oui, il y a quelques plans avec le drone qui est assez drôle dans le film. Ouais, c'est pas une comédie, hein, mais je veux dire, quand même, non, quelques passes.
Mais Will Ferrell.
Dans un rôle dramatique, j'ai bien hâte de le voir, la scène de broyage.
Elle fait juste ça, des jokes d'habitude.
Elle a quand même plus de
un range
skills.
Plus dramatique.
Ouais.
Elle a
plus de range. Ça me va.
Mais
c'est moins humour pipi caca que l'autre. Ces films, même Sisters ou ces films-là. C'est
quoi?
Quand même...
T'as pas aimé Sherlock et Watson?
J'ai pas osé le voir. On m'a dit que c'est probablement le pire film de la décennie.
Ah, faut que je vois ça. J'avais oublié que ça avait été.
Oh my god, pour enfin.
Oui, je l'ai.
Je suis juste triste parce que j'aime quand même beaucoup l'autre acteur.
John C. Reilly.
Ouais, c'est ça.
Ouais, ça.
Ses choix de films sont souvent douteux. Il devrait arrêter de tourner avec Will Ferrell.
Mais je pense que Will Ferrell l'aime vraiment beaucoup. Pose la question de manière que John C. Reilly ne peut pas refuser.
Ben, c'est sûr que s'il rajoute un zéro.
Veux-tu de l'argent?
Là,
c'est plus de.
Sinon,
hey,
je monte ça à ta femme.
Moi, j'y allais plus naïf dans le sens « Hey, j'ai une super idée, t'embarques-tu? Wow, »« Ah, ouais,
OK. » Ah, ben là, ça va être mon anniversaire de mariage. Je pourrais pas aller faire le tournage.
OK,
je
ben
pas
là,
encore dit c'était quel tournage.
De toute façon, il a remplacé John
Stamos. On va le faire la semaine d'après. Ah, okay.
Ah, mais il l'a remplacé par Mark Wahlberg. Il est correct.
Ah, OK.
Et voilà, John Milan est satisfait.
Ouais.
Toi, Milan, as-tu quelque chose que tu veux nous dire cette semaine?
Moi, Tommy.
Oui.
Hier soir.
Oui.
J'ai regardé.
OK.
Un film. Il s'appelle R.I.P.D. Rest in Peace Department.
Ah oui. Ouais. Oui.
Qui est aussi un film catastrophe.
Ouais.
Mais dans l'autre sens.
C'est Jeff Bridges, là, qui. Puis,
dans son plus bel acting.
Ouais.
Il est très, très. Il est pas fatigant. J'y crois. C'est ça.
C'est inspiré d'une BD, ça.
Oui.
Oui, qui est bonne.
Sûrement, oui, exactement. Bonne. Moi, je ne l'ai pas lu, mais ça serait difficile de faire pire, je pense, honnêtement. Le CGI est affreux. C'est vraiment affreux. Puis, c'est pas si vieux que ça. Là. Je veux dire, ça a peut-être un maximum une dizaine d'années. Là. Je me souviens plus de la date.
C'est 2012, 2013.
Ben, c'est ça. Fait que même pas, là. Ça a même pas 10 ans. Puis, on dirait que c'est pire qu'un film fait en comme 2004, mettons. C'est l'histoire d'un policier corrompu, pas corrompu, qui vole de l'or puis qu'il cache en dessous d'un arbre d'orange. Puis il habite à Boston. Donc, spoiler alert, l'arbre d'orange ne survivra pas l'hiver à Boston. Avec son partner. Et là, son partner, il dit à son partner, « Ah ouais, mais là, tu sais, ma femme avait l'air déçue. On disait qu'elle savait que j'avais volé de l'or, machin, je me sens mal. Je vais mettre l'or dans le evidence room. Tu devrais faire pareil. » Tu sais. Là, son partner dit, « Ouais, c'est vrai. T'as raison, on va remettre l'or. » Mais là, coup de théâtre, son partner tue. Hein? Et là, il meurt. Mais il meurt pas vraiment. Il se retrouve devant une madame qui dit « Ah, tu as des skills parce que t'es policier. T'as le choix de mourir tout de suite ou de donner ta servitude au RIPD, qui est le Rest in Peace Department. » Et de là, il découvre un monde de gens qui sont morts, qui refusent d'être morts, qui se cachent comme des êtres humains.
Tu fais la juice, là.
C'est... Fait que finalement, des deux choix qu'on lui a donnés, il a pris le pire, c'est ça.
Ben,
il n'y aurait pas eu de film.
C'est non, ça. Il a pris l'option pour qu'il fasse de l'argent. Et donc...
L'argent pour dépenser quand t'es mort? Tout.
Non, non, mais je veux dire qu'il fasse de l'argent, que l'acteur fasse de l'argent, tu sais. Et c'est donc il se fait donner en partenariat avec Jeff Bridges...
Ouais, qui joue son usuel vieux cowboy un petit peu défraîchi.
Ouais, mais c'est pas très bon.
C'est triste parce que, mettons que quelqu'un me dirait que Jeff Bridges, c'est son acteur préféré, ben je comprendrais facilement pourquoi quelqu'un pourrait arriver à cette conclusion-là, mais c'est totalement raté.
C'est très raté. Tout le monde est fatigant dans ce film-là. Il y a personne qui est bon acteur.
Moi, je me souviens que j'avais trouvé que c'était vraiment long avant que le héros comprenne, tu sais, d'être le fish out of water, là, qu'il comprenne que, gars, il y a deux mondes parallèles, toi tu te manifestes dans l'autre, pas en tant que toi-même, t'es quelqu'un d'autre dans l'autre monde.
T'es le vieux monsieur chinois.
Lui devient le vieux monsieur chinois.
Ça, c'est très drôle. Et Jeff Bridges joue une bimbo dans la quarantaine, super sexy.
Parce que eux autres, les policiers du RIPD, hein, qui se manifestent dans notre monde, n'ont pas leur personne. Ils n'ont pas leur corps. C'est ça, ils sont quelqu'un d'autre. Donc,
c'est comme des sautes de personnes.
Puis là, à la fin, finalement, c'est un complot pour détruire l'univers encore une fois. Ça me tape. C'est jamais simple. Là, c'est tout le temps. Ça avait fait ça dans Bright aussi. Je trouve que c'est un petit peu le même genre de film.
Je pense que Bright, c'est meilleur.
Oui, ça avait l'air. En fait, je l'ai pas vu, Bright, mais quand j'avais vu les. Je m'avais dit, Chris, on dirait que c'est.
RIPD.
Mais Bright, c'est pas bon.
Non.
Mais c'est meilleur.
OK. Faudrait que j'aille voir. Les elfes, c'est des méchants dans Bright. Fait que déjà, c'est plus réaliste.
Ben, c'est vrai. Les elfes sont quand même pas... En tout cas, bref. Exactement. Ça finit que l'or qui a volé au début, c'est l'or pour faire l'espèce de sceptre géant pour que les morts reviennent sur Terre. Fait que comme... Il est mort, puis finalement, le fait qu'il soit mort, il s'est fait rattacher au plus gros complot destructeur de la planète, parce que... Reasons.
Parce que de l'or en dessous d'un orange.
C'est ça. Puis, son partenaire était mort aussi.
Ah.
C'était un dedo qui appelle, là. Qui est,
c'est mon préféré.
il était comme mort, mais il a pas voulu mourir, fait qu'il est pas mort, mais il était mort pareil.
Ouais.
Puis apparemment, que quand les morts sont morts, mais qu'ils sont pas morts... il aime pas la bouffe indienne. Fait que là, il pose des questions aux morts qui sont pas morts en parlant de bouffe indienne. Puis là, il se transforme en gros monstre dégueulasse. Ouais, c'est ça.
Vous m'avez perdu.
Oui, j'ai écouté ça dans le temps que j'écrivais pour Journal Métro, puis je l'avais écouté pour m'a forcé. J'ai complètement oublié. Ben, tu me rappelles ce que c'est, puis il me semble que j'étais tellement vague souvenir de cette merde-là. Non, mais je me souviens que je l'ai vu, mais là, tout ce que tu racontes...
Il y a une passe dans le...
Je me souviens que le CGI était dégueu.
Ah, c'est dégueulasse. Il y a une passe dans un frigo de cuisine, un gros walk-in, où est-ce qu'il parle à un dedo qui a de l'or, donc l'or magique, là. Là, il...
Ça sonne MacGuffin.
Ah, c'est vraiment niaiseux. Puis là, il
a une valise de prétexte. Ouais, protéger le prétexte!
Ouais, exactement. Puis là, il se met du cumin dans les mains, parce qu'il y a beaucoup de cumin apparemment dans la bouffe indienne. Fait que ce serait le cumin puis les épices qui les rendraient dans leur forme de monstre, genre. Okay. Là, en tout cas, c'est ça.
Oh man, juste à parler de ça, aussi. Je suis déjà tanné d'Aaron.
Les autos.
C'est un peu triste parce que la BD est super bonne. Puis c'est inspiré d'une des meilleures runs du Juge Dredd. Parce que le Juge Dredd, dans les années 80, vers la fin, dans la quatrième saison du cartoon, du comic book, à un moment donné, il y a le Juge Dredd qui revient. Parce que c'est le Juge Dredd, un coup mort dans le futur, qui se rend compte que la première source de manquement à la loi, c'est la vie, parce que la vie crée le chaos. Fait que là, un coup qui est mort, il dit « Je vais revenir dans le monde, Tu sais, il retourne dans le passé, il s'incarne, puis là, il commence à tuer tout le monde pour qu'il n'y ait plus de vie, puis qu'il n'y ait plus personne qui transgresse les lois. Fait que la dernière run du juge Dredd, c'est d'essayer de se tuer lui, zombie du futur. Puis c'est pas, mettons, pour des raisons morales tout le temps, parce que là, t'es en train de tuer des citoyens, puis ça se fait pas zombie d'apocalypse. Puis là, il s'entre... Ah, c'était crissement bon, la dualité, dans la BD du juge Dredd. Puis ça a été assez bien repris avec des grandes couleurs, je dirais, beaucoup plus moins gloom, là, tu sais, il y avait un petit peu plus de place à l'humour dans R.I.P.D. Ouais. Et le film, tu parlais de l'auto, désolé.
Oui, en fait, il y a une passe de CGI où est-ce que c'est l'apocalypse, puis là, ben, ils ont ouvert le portail des morts qui descendent. C'est vraiment niaiseux, là. Mais ça, c'est quand... En fait, c'est tellement niaiseux que c'est drôle.
C'est assez fâchant quand tu le rouvres, ce portail-là.
Oui. Puis là, tout explose partout. Puis là, les rues, ça tombe. Puis là, il y a des parkings. Puis il y a des chars qui tombent des parkings, évidemment. Puis ils se font poursuivre. Fait que là, qu'est-ce qui se passe? Dans la poursuite, il y a des chars qui tombent. Ils les évitent pour que les chars qui les poursuivent, le char qui est en haut tombe dessus, genre. Puis c'est comme si tu prends, mettons, Grand Theft Auto 3.
Fast and Furious.
Non, mais genre, tu prends des graphiques de genre 2003 d'un jeu vidéo sur la PlayStation 2, pis c'est plus beau. C'est infect.
Et voilà, fait que tu conseilles à tout le monde R.I.P.D. de 2012-2013.
Mais ça a été un flop à l'époque.
Ben, juste. C'est encore un flop.
Moi, je sais. Mais je pense. Peut-être qu'ils vont sortir un Director's Cut. Non.
Director's Cut, ça devient un drame touchant.
Moi, je pensais d'ailleurs que c'était le film qui aurait probablement, on n'aurait plus jamais entendu parler de Ryan Reynolds de notre vie. Mais malheureusement, ouais. Il a fait Deadpool après.
Mais Ryan Reynolds n'est pas un mauvais acteur. Je pense qu'il a sa place dans Deadpool, mettons. Mm-hmm. Je pense qu'il rend bien le personnage.
Ouais, mais là, il commence à faire un petit billet. J'ai vu la bande-annonce de son nouveau film l'été prochain.
C'est Underground 6.
C'était pas bon, ça.
C'était rare.
Non, mais là, il y a un petit tournant là, qui joue toujours à la même manière, un peu comme Robert Downey Jr. Fait depuis 25 ans.
Le problème avec Ryan Reynolds, c'est qu'à un moment donné, il pogne une bonne talle de films, puis là, il joue dans plein d'affaires, puis là, on est tanné de le voir, puis après ça,
il c'est comme un peu Guillaume Lemaitre-Vierge aussi. Il joue, puis on est tanné de le voir.
Mais l'affaire avec Guillaume Lemaitre-Vierge, c'est que la première chose qu'il a faite, on était déjà de le voir, en fait.
Le matou?
Mais là, tout le monde tripait dessus dans le matou. Il meurt, plus.
Ben, c'est une chance. Ouais.
Il était correct, mais il était un peu fatigué.
Le héros, c'était Corneille.
Moi, j'étais incapable. J'étais incapable de t'y vierge.
Non, écoute.
Moi aussi, le t'y vierge verse, c'est jamais
trippé. Le t'y vierge verse!
La seule chose qui est acceptable avec...
Ben moi, je pense aux deux nitros.
Le poil de la bête.
On l'a déjà diffusé au brouhaha, ça, le poil de la bête.
Ben, j'imagine. C'est tellement bon.
Sacrément de
ça. J'en ai fait un ce que j'ai appris. Là,
entre chien et loup.
Moi je pense que. Arrête, là. Moi, je pense qu'on finit sur le petit vierge verse.
Lancez compte quand il est dans la chaise roulante.
Ah oui, c'était dans l'ancien
compte. C'est
un lézard pour Valérie Nantel.
Un lézard. tu es un lézard devant Valérie Nantel. Parce qu'elle est en chaise roulante et elle est debout avec ses jambes. Là,
vous checkerez pas ça, petit vierge verse. Merci beaucoup, Pascal, pour tes films de neige. On peut te suivre sur Facebook. Hein, c'est là que tu partages un petit peu ce que tu as vu.
Letterboxd. Oui,
mais voilà. Ben, Pascal Grenier, c'est aussi sur Letterboxd.
Oui. Pascal Grenier, mon même nom. C'est pas d'avatar parce qu'ils veulent pas, mais c'est mon nom.
Ça me va. Merci, Julien.
Hey, ça fait grandement plaisir. Rest in peace.
T'es allé par Underwater.
Oui, ça, c'était bon, quand même, comparé à l'autre marde.
Avec Florence. Merci, Florence.
Hey, de rien. Underwater, tout le monde.
Underwater. Puis, je pense que c'est ça pour cette semaine. Là. Moi, c'est Tommy. Puis, le show est disponible sur Spotify. Puis, on a de la merch en ligne si vous pèsez sur le bouton Facebook.
Puis, il faut remercier podcast.com.
On peut remercier podcast.com. Puis, Martin Godet, tous les amis de notre maison mère. Allez voir ça. Il y a plein de podcasts différents, dont Terrain Basique et 70%. Là-dessus, je n'ai plus rien à dire. Je vous souhaite la bonne bobine, tout le monde.
Bye.
Bye, bon film.
La.